Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, pour ce premier podcast de l'année, j'accueille Lucie Ronfaux-Hazard pour vous parler d'un petit livre qui m'a emballée. Ça s'appelle « Internet aussi, c'est la vraie vie » avec un point d'exclamation. Ce petit livre est destiné aux ados et c'est une invitation à réfléchir aux liens entre le numérique et le monde dans lequel nous vivons. Et il tente de répondre à de nombreuses questions qui ont un impact immédiat sur nos vies et sur le monde dans lequel nous vivons. Un livre qui a aussi été conçu avec l'espoir que ces réflexions puissent aider à construire un futur connecté, inclusif et plus juste. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Alors Lucie, tu es journaliste indépendante spécialisée dans les nouvelles technologies et la culture web. Tu écris dans Libération, Le Monde, Numérama. Et tu es l'autrice d'une newsletter qui a gagné une belle notoriété, hashtag Règle 30.
C'est ça.
Consacré à la diversité dans le numérique. Ben, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça signifie en fait hashtag règle 30 ?
Alors le hashtag règle 30, c'est une petite blague qui fait référence à un vieux mème internet, donc les mèmes, c'est ces blagues récurrentes et très virales en ligne. Mmh. Et au début des années 2000, il y avait ce mème qui disait qu'il y avait des règles sur internet. Alors c'était faux, hein, c'était une blague. Et la règle 30, c'était « il n'y a pas de femmes sur internet ». Sous-entendu, si un jour quelqu'un prétend être une femme et te parler, elle ment et c'est un mec qui essaye de t'arnaquer, etc. Donc quand on a lancé la newsletter avec Numérama, on voulait dès le départ en faire une newsletter féministe et inclusive, et donc a priori parler moins des hommes et plus des femmes, et donc on trouvait que la référence à la règle 30 était amusante.
D'accord, eh bien, écoute, je suis ravie de t'avoir posé la question, puisque je m'y suis abonnée, bien évidemment, et j'en ai été ravie, et c'est une mine d'informations, donc j'en profite pour inviter nos auditrices et auditeurs à aller, je vais mettre le lien dans le descriptif du podcast. Donc, tu as aussi publié en 2021 « Les règles du jeu », un premier roman consacré à l'économie numérique. Alors, est-ce que l'on peut avoir quelques mots, avant de parler plus du livre, sur ton parcours ? Comment tu t'es intéressée au numérique et à la diversité dans le numérique ?
Bien sûr. Donc moi, je suis journaliste depuis 8 ans maintenant. J'ai fait des études de journalisme. Mais en fait, pendant mes études de journalisme, j'ai réalisé que j'avais envie de me spécialiser dans le numérique. Parce qu'en fait, le numérique a toujours fait partie de ma vie. Alors déjà parce que je suis née en 91 et que voilà, j'ai eu Internet pendant mon adolescence et j'ai grandi avec. Mais c'était un intérêt très personnel. C'était mon hobby. Donc c'est vrai que j'étais le genre d'ado qu'on engueulait beaucoup parce que je passais mon temps devant les écrans, je bidouillais pas mal, j'allais sur les forums, etc. Donc c'était une partie de ma vie qui était assez importante. Et puis donc j'ai voulu être journaliste, mais je voyais ça comme très séparé. Et en fait, quand je suis arrivée dans mes études de journalisme, c'était le moment où les médias généralistes commençaient vraiment à couvrir l'industrie du numérique. Parce que Facebook explosait, Google explosait, enfin que tous ces géants, enfin qu'on appelle maintenant géants, oui, on prenait conscience vraiment de leur importance, non seulement économiquement parlant, mais aussi dans la société. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que quand je faisais mes études, le Figaro allait lancer sa page dédiée aux nouvelles technologies dans le cahier Saumon, qui est le cahier économie. Et donc, ils ont cherché un ou une stagiaire pour traiter un peu plus ces sujets, pour renforcer un peu leurs effectifs. Et donc, j'ai postulé et j'ai eu le stage. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que je suis restée au Figaro pendant 6 ans et demi. Donc, c'est comme ça que je suis passée d'une personne un peu geek à titre perso, on va dire, à une personne qui écrit vraiment professionnellement sur les nouvelles technologies. Et le côté diversité, il est arrivé petit à petit. À la fois petit à petit, en même temps, il a toujours été là, dans le sens où je suis une femme qui écrit sur les nouvelles technologies, et que, déjà, ça fait de moi pas un homme qui écrit sur les nouvelles technologies, et moi, j'ai toujours été très intéressée par les sujets que j'appelle humains dans la tech, c'est-à-dire que j'estime que parler du numérique, en fait, c'est parler de la société. Et que quand on parle d'algorithmes, de réseaux sociaux, en fait, il faut aussi s'intéresser aux personnes qui les font et les conséquences que ça a sur notre quotidien. Et donc, pour moi, ça passe notamment par le fait de parler d'inclusivité, de féminisme, d'interroger le fait que cette industrie est très peu diverse, même si ça s'améliore. Et donc, voilà, c'est un intérêt que j'ai pas mal cultivé quand j'étais au Figaro. Et depuis que je suis indépendante, là, depuis un an et demi, j'y consacre quasiment tous mes travaux.
Oui. On le sent hein, dans ta newsletter et évidemment dans ce petit livre que tu maîtrises bien ton sujet. Parce qu'en fait, c'est des sujets, c'est aussi ce qui m'a étonnée, c'est que ce sont des sujets quand même, enfin chaque chapitre, on peut faire un livre entier sur chaque chapitre, quoi, tellement ce sont des sujets vastes.
Ah oui, aujourd'hui, complètement.
Et il y a un esprit de synthèse qui est quand même, ce qui est moi, qui n'est pas mon fort, et j'en suis d'autant plus admirative, parce que franchement, réussir en 3-4 pages pour chaque chapitre à expliquer aussi bien à la fois les enjeux, mais aussi il y a des petits pavés d'infos utiles, il y a des exemples, il y a des... Donc, alors, ce livre, il est composé de 70 petits chapitres. Non,
70 pages.
Non, 70 pages, oui, pardon. Il y a une vingtaine de chapitres. Et donc, je ne vais pas les lire tous, mais quelques-uns pour donner une idée à nos lectrices et lecteurs du contenu qu'ils pourront trouver dedans. Donc, ça commence évidemment avec Internet et moi, et entre parenthèses, et toi et nous, mais après, les GAFA sont-ils dangereux? À quoi servent nos données personnelles? Faut-il se méfier des algorithmes? J'en profite pour préciser à chaque fois qu'il ne faut pas que ces mots un peu barbares pour certaines fassent peur, parce que c'est très bien expliqué à chaque fois. Il y a des petites explications de tous les mots qui pourraient nous être un peu étrangers. On a aussi, est-ce qu'Internet est raciste? Est-ce qu'Internet est sexiste? Pourquoi ne voit-on pas de personnes grosses sur Instagram? C'est quoi la cancel culture? Peut-on devenir riche grâce au Bitcoin? Que des sujets vraiment dont on entend beaucoup parler, même si on n'est pas la tête dans toutes ces questions Internet tout le temps. Pourquoi la modération des réseaux sociaux est-elle si nulle? C'est bien de poser la question franchement. Comment se protéger du cyberharcèlement? Bon, on voit que ça offre un tour d'horizon assez complet de ce qu'il faut connaître aujourd'hui sur le sujet Internet. Qu'est-ce que tu souhaitais en fait au début de ce projet?
Alors le projet à l'origine, il est venu de La Ville Brûle, donc avec qui j'avais déjà travaillé donc pour mon roman.
Maison d'édition.
Voilà, donc c'est ma maison d'édition. Et donc Marianne, qui est mon éditrice, est venue me voir et m'a dit « Écoute, je lis ta newsletter, j'aime bien ton rapport au numérique et nous, on a une collection pour ados dans laquelle on explique des sujets un peu complexes mais concernants et on aimerait faire un truc sur le numérique. » Donc c'est parti de cette idée, de cette envie d'expliquer le numérique aux ados. Mmh. Et moi, dès le départ, je me suis dit que je voulais pas en faire un mode d'emploi parce que j'estime que du haut de mes 30 ans, j'ai absolument rien à apprendre à un ado ou une ado sur, je sais pas moi, comment aller sur Snapchat, comment aller sur TikTok. Déjà, parce qu'ils ont pas besoin de moi pour ça, ils vont le faire, oui, tout seuls comme des grands parce qu'ils ont leurs pratiques et moi les miennes. Et oui, puis par ailleurs, le souci, ça aurait été de faire un livre qui aurait périmé très très vite parce que le numérique, oui, par essence, ça se renouvelle beaucoup.
C'est ce que je me disais, ça peut être un risque, oui.
Voilà, donc je voulais pas un mode d'emploi. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de provoquer la réflexion et de donner des pistes de réflexion, en fait, pour mes lecteurs et mes lectrices. C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à, quand on réfléchit aux ados dans le numérique, on a tendance à les penser soit trop bêtes, soit trop intelligents, en un sens. Soit on estime que c'est des pros du numérique et qu'ils y connaissent beaucoup plus que nous et qu'en gros, on n'a rien à leur apprendre. Je pense pas que ce soit forcément vrai. Mmh. Et soit on juge que toutes leurs pratiques sont nulles, sont stupides, sont dangereuses, et on préférait que les ados soient loin des écrans. Et moi, je pense ni l'un ni l'autre. Je pense que les ados, comme nous, en fait, adultes, sont perdus dans le numérique, et c'est normal parce que ce qu'on appelle le numérique, en fait, est quelque chose d'extrêmement vaste, qui touche à des très grandes entreprises, qui touche à plein de phénomènes de société qu'on peut pas, en fait, s'y retrouver tout seul. Et du coup, moi, j'ai voulu enfin, avec ce livre, je voulais parler d'Internet aux ados comme moi j'aurais aimé qu'on me parle d'Internet quand j'étais ado. C'est vrai que moi j'ai commencé à aller sur Internet relativement tard par rapport aux ados d'aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'y suis allée, j'avais 13-14 ans, il n'y avait pas de smartphone, enfin, moi j'ai eu un compte Facebook quand j'avais 18 ans quoi. Mais je fais partie, je pense, de la première génération qui a vraiment grandi, enfin qui a eu son adolescence sur Internet, et moi je me rappelle assez bien de l'attitude des adultes vis-à-vis de mes pratiques numériques qui étaient assez sceptique dans la compréhension, dans pas mal dans la dénonciation aussi. Et en fait, quand j'entends les adultes aujourd'hui parler des ados d'aujourd'hui, en fait, les pratiques ont changé, mais les discours sont exactement les mêmes. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout évolué sur la manière dont on parle aux ados de numérique. Donc voilà, moi, le but, c'était vraiment ça, de me dire, moi, j'ai connu ça, et maintenant, j'ai les connaissances. Et j'ai envie de faire de ce livre quelque chose qui puisse accompagner les discussions qu'on puisse avoir avec les ados ou les adultes, hein, parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'on y connaisse beaucoup mieux que les ados non plus.
C'est ce que je me suis dit en lisant ton livre, hein, vu tout ce que j'y ai appris.
C'est gentil. Mais après, c'est vrai que moi, c'est ma spécialité. J'enquête beaucoup dessus, mais comme tu le dis, on aurait pu faire un bouquin par chapitre et on aurait pu rajouter 20 autres chapitres aussi, tellement le sujet est vaste.
Alors tu dis justement en t'adressant à tes jeunes lectrices et lecteurs, j'espère que ce livre t'apprendra des choses et qu'il te fera réfléchir à tes pratiques en ligne, que ce soit sur ton smartphone, sur un ordinateur dans la salle informatique de ta médiathèque ou dans ta chambre. Et je me suis demandé, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger dans le monde réel avec des ados sur tous ces sujets, peut-être dans des collèges, des lycées ou d'autres lieux? Et si oui, qu'est-ce qui te frappe dans leurs réactions?
Alors, j'ai pas encore eu l'occasion avec ce livre de rencontrer des ados, ça c'est prévu, donc maintenant qu'il est sorti, je vais faire un peu, enfin j'espère, une tournée des médiathèques et peut-être des interventions en école, parce que ça m'intéresse d'avoir ce retour aussi. Le livre a été relu par des ados, La Ville Brûle, un peu une team d'ados apparemment qui relie leur livre dédié aux ados, donc il a été pré-approuvé en un sens. Donc voilà, mais c'est vrai que moi dans ma pratique professionnelle, personnellement j'ai des ados autour de moi, mais dans ma pratique pro c'est la première fois que je m'adresse à un jeune public, et c'est ce qui m'intéressait aussi parce que j'ai longtemps bossé au Figaro, donc le Figaro on peut imaginer que le public était un peu plus âgé que des ados, donc je me suis beaucoup adressée à des adultes qui s'y connaissaient peu. Là maintenant en tant qu'indépendante je m'adresse davantage à des adultes qui ont un intérêt déjà dans le numérique, donc là ça m'intéressait d'avoir un peu l'autre spectre quoi, les jeunes qui s'y connaissent ou qui ne s'y connaissent pas, mais voilà les jeunes en général quoi. Donc, mais j'ai hâte d'avoir des retours de leur part. Je pense que ça peut être amusant.
Bon, très bien. Alors, la mise en page est aérée et agréable. Il n'y a pas de gros pavés de texte. Il y a des petits blocs d'infos utiles. Et tes textes sont accompagnés d'illustrations assez drôles que l'on doit à l'illustratrice et autrice de bande dessinée, Myrion Mal, et qui m'ont assez souvent fait sourire, tout en apportant vraiment un plus par rapport au texte. Et est-ce que vous avez travaillé ensemble? Est-ce que c'est toi qui lui donnais les idées, ou chacune travaillait de son côté? Comment vous avez... Parce que ça vraiment, ça interagit bien, quoi.
Alors là, c'est le moment où je vais chanter les louanges de Myrion, parce que...
Vas-y.
Alors, Myrion est une amie, mais avant qu'on se rencontre, j'étais vraiment fan de son travail, donc je suis vraiment ravie qu'on ait pu collaborer sur ce livre. Donc la manière dont on a collaboré, c'est qu'en fait, moi, j'ai d'abord écrit le texte, et qu'ensuite le texte a été envoyé à Myrion, et c'est Myrion qui a fait ses dessins qui m'ont été envoyés ensuite. On a pu échanger dessus, mais en fait en toute franchise il n'y a rien qui a été modifié parce que tout était très bien, tout était parfait. Je trouve qu'elle a vraiment c'est dur hein, d'illustrer le numérique, c'est dur d'illustrer le sujet du numérique parce que c'est vrai qu'on a tendance à réduire ça aux robots, aux ordinateurs, aux salles de serveurs, enfin voilà, donc on finit vite dans des esthétiques à la Matrix entre guillemets,
et je trouve que du non vivant
voilà exactement, et je trouve que la force à 2001 c'est que ces illustrations ne montrent que des gens, en fait. Voilà. Ne montrent que des ados, que des adultes, que des gens qui sont confrontés donc, aux différents phénomènes que j'explique. Oui. Et du coup, c'est une illustration parfaite, je trouve, de la thèse du livre, qui est de dire, en fait, Internet aussi, c'est la vraie vie, dans le sens où on a tendance à distinguer la vraie vie de la vie numérique, comme si la vie numérique serait plus fausse que la vie physique, alors que c'est faux, en fait. Je veux dire, on est dans une époque, et ça fait longtemps que c'est le cas, où tout est lié, en fait, tout est interconnecté, et à partir du moment où on peut... se divertir, rencontrer des gens, apprendre des choses, travailler sur Internet. Et ben, Internet, c'est la vraie vie. Il n'y a rien de faux dans cette vie-là.
Oui, puis on interagit avec d'autres sur Internet.
Complètement. Donc, je trouve que voilà, puis la couverture, le fait que ça soit deux jeunes filles qui se font un câlin, l'une qui sort de son ordinateur. Enfin, vraiment, j'ai adoré ces illustrations et je suis super fière d'avoir pu faire un bouquin avec Myriam.
Voilà, ça c'est fait.
Le fan club numéro, là, je suis le fan numéro 1 de Myriam Mal.
D'accord. Donc, dans chaque chapitre, tu expliques bien les bons et les mauvais aspects. On sent à chaque fois cette envie de trouver la voie du milieu, de bien rester équilibré, de ne pas diaboliser certains aspects non plus. À chaque fois, c'est une vraie recherche d'équilibre. Donc, tu expliques bien les bons et les mauvais aspects. Et pour les mauvais aspects, tu pointes bien les conséquences concrètes. Par exemple, dans le chapitre « Faut-il se méfier des algorithmes ?», tu écris « Un algorithme n'est pas en soi quelque chose de mauvais. On retrouve des algorithmes un peu partout dans notre vie quotidienne. En informatique, ils sont indispensables pour réaliser les calculs très complexes, nécessaires pour faire fonctionner un ordinateur, des logiciels, etc. Et sur le web, ils peuvent être très pratiques. C'est grâce à eux que l'on trouve tout de suite ce que l'on veut quand on tape un mot dans un moteur de recherche ou que l'on nous recommande des vidéos et des chansons qui pourraient nous plaire. Le problème, c'est que ce système peut vite t'enfermer dans des contenus très similaires. Par exemple, si tu écoutes beaucoup de rap, Deezer ou Spotify ne te proposeront que du rap, même si tu aimerais aussi écouter de la pop ou de l'électro de temps en temps. Cela peut t'empêcher de découvrir d'autres choses, d'exercer ta curiosité, et cela restreint tes choix. Et tu décris ensuite ce que l'on appelle les phénomènes de bulles, les bulles de filtre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont ces phénomènes de bulles et pourquoi c'est important d'en avoir bien conscience ?
Alors, ce qu'on appelle une bulle de filtre, c'est un concept qui s'est popularisé ces dernières années chez les spécialistes du web et des nouvelles technologies. En gros, on appelle bulle de filtre ce phénomène d'enfermement dans des contenus similaires. Alors, ça peut être assez divers et varié. Par exemple, si je suis une personne qui vote à droite, sur Facebook, il y a de fortes chances pour que je me retrouve uniquement avec d'autres contenus de personnes qui votent à droite. De la même manière, si je suis sur YouTube et que... je veux perdre du poids, par exemple, donc je vais chercher meilleur régime ou une séance de sport. Il est fort probable que YouTube, du jour au lendemain, se transforme en une espèce de machine à me faire maigrir et à me proposer que des contenus en rapport avec la maigreur ou la minceur. Un autre mot que j'aime bien pour décrire ce phénomène, c'est le phénomène de rabbit hole, le trou du lapin. Vous savez, le trou dans lequel Alice tombe dans Alice au Pays des Merveilles. Oui. Parce qu'en fait, il y a un vrai phénomène, je pense, qu'on subit tous en tant qu'internaute, de tomber en fait sans trop pouvoir le contrôler dans des contenus similaires. En soi, les algorithmes de recommandation qui sont à l'origine de ces bulles de filtre, c'est pas un problème, dans le sens où on a besoin d'un minimum d'algorithmes pour trier les informations qu'il y a sur Internet. Il y a beaucoup trop d'informations pour qu'on puisse s'y aventurer de manière sans filet, si vous voulez. Donc on a besoin de recommandations.
Et puis on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aussi
à
chercher. Donc quelquefois, c'est le bon côté, effectivement, d'avoir accès plus rapidement à ce qui correspond à ce qu'on cherche.
Complètement. Le souci, c'est que les algorithmes ne sont pas neutres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça c'est un thème qui est très important dans le bouquin et dont je parle dans plusieurs chapitres, on a tendance à considérer ces algorithmes, les nouvelles technologies, comme un peu ces robots parfaits, on lui dit 1 plus 1 égale 2, donc un algorithme, ne pas faire d'erreur, etc. Sauf que ces algorithmes sont construits par des personnes, sont construits par des entreprises qui ont des intérêts commerciaux, qui ont des opinions politiques, qui opèrent dans des contextes divers et variés, par exemple un algorithme, je sais pas moi, bâti au Japon ne se comportera pas de la même manière qu'un algorithme bâti aux États-Unis. Et tous ces enjeux font que les algorithmes vont se comporter de manière parfois un peu imprévisible et sans que nous, on ne s'en rende compte. Et le danger, c'est que quand on n'a pas conscience de la place de ces algorithmes dans notre univers numérique,
virtuel,
en fait, on va croire que le monde est ce qu'on voit sur Internet. Donc par exemple, je suis une personne de droite et je suis sur Facebook, je ne vois que des gens de droite, je me dis « le monde est de droite ». Tout est de droite.
Tout le monde pense comme moi.
Tout le monde pense comme moi.
La même chose si on est écologiste ou
complètement,
gauche. On va voir effectivement apparaître que des contenus de personnalités qui sont dans les mêmes idées, qui défendent les mêmes choses,
complètement.
Qui s'attaquent aux mêmes choses. Oui.
Mais donc, d'ailleurs, j'ai mentionné l'exemple de droite volontairement parce qu'il y a une étude récemment, par exemple, qui expliquait que en fait, tous les contenus n'ont pas le même poids sur Internet. Et le but en fait, de toutes les plateformes en ligne, c'est qu'on reste le plus longtemps possible chez elle. C'est leur modèle économique, c'est un modèle publicitaire. Plus je passe de temps sur Facebook, plus Facebook est riche et plus Facebook est content. Donc Facebook fait des études pour savoir quel genre de contenus vont me retenir en ligne. Et en fait, les contenus qui vont me retenir en ligne, c'est les contenus qui vont me faire réagir. Et en fait, les contenus qui vont réagir, la plupart du temps, c'est les contenus un peu outranciers, les contenus qui vont mettre en colère, etc. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que ces phénomènes algorithmiques en fait ont complètement débordé sur la vraie vie, et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations alors là je cite les cas les plus graves, hein, mais
c'est tellement d'actualité qu'il faut, c'est bien de tout à fait. Parler, c'est indispensable,
c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations de la candidature de Donald Trump, de la situation qui a mené à la tentative d'insurrection au Congrès américain en janvier 2021, etc. Des gens qui s'auto-radicalisent, et en fait quand on parle d'auto-radicalisation on peut en parler sur plein de sujets différents, et par exemple il y a une étude que j'avais trouvée très intéressante de la part de Twitter, qui expliquait que c'est Twitter lui-même qui a fait une étude pour essayer de comprendre quel était le poids des contenus politiques sur sa plateforme, parce que Twitter est très utilisé par tout bord politique. Et en fait, Twitter lui-même a reconnu que son algorithme a tendance à privilégier les contenus de droite. Et il n'arrive pas à l'expliquer pourquoi. On sait juste qu'un tweet de droite, voire d'extrême droite, va avoir une plus grande viralité en moyenne qu'un contenu de gauche. Et voilà, ça c'est loin d'être neutre, et non seulement c'est pas neutre, mais en plus, c'est pas transparent, et on n'arrive pas à l'expliquer. Twitter lui-même n'arrive pas à l'expliquer.
Oui, c'est ça qui est, c'est ce qu'on voit aussi dans un documentaire que tu recommandes, on va en parler un petit peu plus tard. On s'aperçoit que beaucoup de gens sont démunis aujourd'hui dans les experts qui eux-mêmes travaillent sur les algorithmes.
Complètement.
D'ailleurs, dans ce même documentaire, il y a une jeune femme qui lit un extrait du 1984 de George Orwell, et où en fait, c'est terriblement aujourd'hui d'actualité, notre réalité.
Alors, c'est notre réalité, je ne sais pas. J'ai tendance à faire attention en comparaison avec les fictions un peu dystopiques. Oui, dystopique. Je pense que la SF dystopique nous est très utile pour plein de raisons. Mm-hmm. C'est aussi les divertissements pour plein de raisons. Mm-hmm. On me demande souvent c'est quoi les solutions, et moi j'en sais rien, hein, j'en sais rien. Je sais interroger les gens qui ont des opinions sur comment régler les choses, mais moi je pense que la première étape en tout cas, c'est d'avoir conscience en fait que un, il y a des algorithmes, et deux, qu'ils ne sont pas neutres pour pas mal de raisons. Et pour moi, ça, c'est une première étape qui est fondamentale et qui en fait pas encore achevé du tout. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce confort des algorithmes. Mais pour revenir aux ados, par exemple, les ados actuellement, ils sont tous très fans d'une application qui s'appelle TikTok, qui est une application dans laquelle le fil d'actualité est entièrement géré par les algorithmes. Donc peu importe nos abonnements, peu importe ce qu'on choisit, en fait, l'algorithme choisit pour nous. Et donc du coup, pour moi, c'était important de dire à un ado, oui, effectivement, TikTok, c'est très efficace, TikTok, c'est très marrant, moi, c'est une appli que j'aime beaucoup. Néanmoins, interroge-toi, pourquoi est-ce que TikTok te montre ce genre de contenu? Et pourquoi, par exemple, quand tu es triste, TikTok, d'un coup, te montre que des vidéos d'autres gens tristes? Et est-ce que c'est neutre ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et c'est le genre de réflexion que je voulais amener sans forcément être dans la catastrophe, mais pour moi, rien qu'en avoir conscience, c'est déjà une étape fondamentale.
Oui. Et alors, des algorithmes, on passe au chapitre suivant intitulé « Est-ce qu'Internet est raciste ?» qui nous parle des biais algorithmiques. Et là aussi, c'est passionnant et c'est quand même inquiétant. Même si ça, évidemment, on en a déjà pas mal entendu parler. Mais enfin, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce chapitre « Est-ce qu'Internet est raciste ?» Et en fait, poser comme ça la question, elle est un petit peu provocatrice, naturellement. Et en fait, c'est un vrai problème quand même.
Oui, tout à fait. Donc pour moi, ce chapitre, il était très important parce que... Moi, j'estime qu'Internet et les réseaux sociaux ne nous rendent pas quoi que ce soit. Je veux dire, Internet ne rend pas raciste, Internet ne rend pas sexiste. Le racisme, il existe dans la vie physique depuis toujours. Et pour moi, Internet, les algorithmes, les réseaux sociaux agissent plus comme un miroir déformant de la société, davantage qu'elles nous rendraient violents d'un coup, quoi.
Mais ça, tu ne crois pas que ça peut être amplificateur par rapport à des tendances?
Alors justement, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui sont discriminées dans la vie physique le sont aussi dans la vie numérique. De deux manières. Quand on parle du racisme, en fait, il y a deux types, de grands types de racisme en ligne. Le premier, c'est un racisme qui ressemble malheureusement vraiment au racisme de la vie physique, c'est-à-dire un créateur ou une créatrice noire qui va faire un contenu sur Internet et qui va se prendre des commentaires racistes sur son physique, sur ses capacités, etc. Donc ça, c'est malheureux, mais c'est pas nouveau, c'est vraiment c'est la même chose que dans la vie physique. Et après, il y a un autre type de racisme qui est plus compliqué à appréhender, qui est ce qu'on appelle donc les biais algorithmiques. Donc les biais algorithmiques, c'est un concept qui explique que nos algorithmes sont biaisés. Ils ne nous traitent pas tous de la même manière en fonction de nos caractéristiques personnelles. Donc par exemple, dans l'exemple du racisme, il y a un exemple que moi je prends souvent, c'est qu'on utilise de plus en plus de la reconnaissance faciale en France et ailleurs pour des choses très sérieuses. Donc ça va de l'identification dans un aéroport à la police qui va rechercher un suspect d'un crime, à des trucs d'assurance, enfin, c'est assez divers et varié. Et en fait, aux États-Unis, par exemple, la police est très avancée en tout cas sur l'utilisation de ces nouvelles technologies, on s'est rendu compte que la police en fait fait très régulièrement des erreurs en arrêtant des personnes noires pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. Et ça, c'est pas de la SF, hein, pour le coup, c'est vraiment c'est un vrai cas. Je veux dire, en 2021, on comptait déjà trois personnes qu'on connaît, hein, des cas qui ont été médiatisés, qui ont été arrêtées par erreur pour un crime qu'elles n'ont pas commis. Et sur ces trois personnes, les trois étaient des hommes noirs. Pourquoi ?
Et à chaque fois, arrêté sur la base reconnaissance faciale.
D'un logiciel de reconnaissance faciale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les logiciels de reconnaissance faciale fonctionnent moins bien sur les personnes noires. Il y a pas mal de raisons à ça. La première, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de logiciels de reconnaissance faciale qui sont faits dans des pays occidentaux, souvent par des ingénieurs blancs qui vont en fait pas forcément penser à la diversité de qu'il y a en fait dans le monde, même dans leur propre pays. Hein, je veux dire, aux États-Unis, il y a énormément de personnes noires. Hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel du tout. Et du coup, on est face à des logiciels qui sont entraînés. Parce qu'en fait, une IA, c'est bête. Hein, une IA, c'est un logiciel qu'on programme à reconnaître le monde selon certains critères.
Oui. Donc une intelligence artificielle.
Tout à fait. Donc une intelligence artificielle, ce qu'on va lui demander de faire, c'est qu'on va lui donner des millions de visages et elle va apprendre petit à petit à reconnaître c'est quoi un nez, c'est quoi des yeux, c'est quoi une bouche, etc. Et appréhender en fait ce qu'est un visage. Sauf que si cette IA, on lui donne à voir que des personnes blanches, en fait l'IA va en déduire qu'un visage c'est un visage de personne blanche. Pas parce qu'elle est raciste de manière inhérente, c'est parce qu'on lui a en fait inculqué un biais qui est qu'on lui a donné à voir un monde qui n'est pas le monde tel qu'il est en dehors de cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est un exemple que je trouve très concret et du coup que je cite souvent parce qu'en fait, non seulement c'est injuste, mais en plus c'est dangereux. Je veux dire, on parle de personnes qui ont été arrêtées et encore une fois, là, ces trois personnes qui ont été arrêtées et qui finalement ont été relâchées et qui ont pu médiatiser leur cas, potentiellement, combien de personnes ont été arrêtées et peut-être condamnées à cause de ce genre de logiciel. Donc voilà, ouais, ce chapitre traite notamment de ces sujets.
Et donc, dans chaque chapitre, tu donnes des éléments concrets. Ça peut être les chiffres d'une enquête, un exemple qui illustre le sujet. Par exemple, dans ce chapitre, est-ce qu'Internet est raciste ? On a un petit texte intitulé « La super-héroïne des algorithmes » et tu recommandes même un documentaire, donc on en a parlé déjà, sur son travail, qui est un documentaire qui est sur Netflix, « Codit Bias », que j'ai regardé, qui est passionnant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette super-héroïne ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est encourageant aussi par rapport à son action dans la société, par rapport à ce qu'elle a subi elle-même, en fait.
Tout à fait. Oui, donc le documentaire « Codit Bias », il se concentre sur le travail d'une informaticienne qui s'appelle Joy Boualwimi, qui est à la fois américaine et ghanéenne. Et elle, c'est une chercheuse au MIT, donc une université très prestigieuse aux États-Unis, qui un jour fait une recherche sur la reconnaissance faciale. Et donc, qui s'amuse un peu à... Elle voulait inventer un miroir intelligent qui permette de lire des choses sur les visages des gens. Donc, elle teste son miroir intelligent sur elle-même. Donc, c'est une femme noire. Hein. Et donc, elle essaye son miroir. Elle se rend compte que son miroir fonctionne sur des gens blancs, mais pas sur elle. Et en fait, elle est prise d'un pressentiment. Et un peu par provocation, elle prend un masque blanc. Vous savez, les masques de carnaval qu'on va modifier quand on est enfant, etc. Elle prend le masque blanc, elle le met sur son visage, et là, le miroir fonctionne. Donc ça, elle a réussi à prouver en fait que ce miroir était complètement biaisé contre sa peau noire. Oui. Et donc depuis, Joy Boualwimi, en fait, elle a lancé la Algorithmic Justice League, qui est en fait un collectif de chercheurs, de chercheuses, d'experts et d'expertes qui cherchent à alerter contre les biais des intelligences artificielles, particulièrement les biais racistes, et en fait à améliorer ces logiciels ou tout simplement en fait à dénoncer la place de ces logiciels dans la police, dans les les efforts de sécurité, dans les efforts d'assurance, etc., en disant on ne peut pas en fait se reposer sur ces logiciels. Déjà, on ne peut pas se reposer sur eux tant qu'ils sont biaisés comme ça, et peut-être qu'on ne devrait pas se reposer sur eux du tout, parce que ce qui explique très bien le documentaire Coded Bias que je recommande, hein, qui est sur Netflix.
Ah oui, moi aussi, parce que franchement, c'est tellement instructif.
C'est instructif, et puis en plus, ça montre bien qu'en fait, c'est un problème qui est infini. Parce que là, on parle des femmes noires, mais en fait, ça concerne potentiellement quasiment toute la population. C'est-à-dire que comment savoir si un logiciel n'est pas biaisé contre nous ? C'est une vaste question. Et du coup, au travers de ces recherches, en fait, cette chercheuse, elle montre que peut-être que le problème même, c'est qu'on se repose en tant que société de plus en plus sur des logiciels qui ne sont pas capables d'appréhender notre société.
Et dans ce documentaire Coded Bias sur les biais algorithmiques, l'une des intervenantes dit, en parlant de l'intelligence artificielle, « La machine ne prend pas des décisions éthiques, elle prend des décisions mathématiques. Si on utilise des modèles d'apprentissage automatiques pour reproduire le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne fera pas de progrès social. » Toi qui étudies de près toutes ces évolutions, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase ? Parce qu'on a l'impression, en fait, en lisant ton livre ensuite avec le documentaire, je me dis, on a l'impression de voir avancer sur nous un rouleau compresseur qui nous laisse de moins en moins de marge de manœuvre, de moins en moins de liberté individuelle et d'intimité, de vie privée. Et on a l'impression que rien ne semble pouvoir arrêter tout ça maintenant.
Alors, en fait, il y a une manière... pas très simple, mais très concrète, d'améliorer les choses. En fait, c'est de diversifier les personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies. Et c'est pour ça que, en fait, quand on parle, par exemple, du manque de femmes, du manque de personnes non blanches dans la Silicon Valley ou dans ces entreprises, en fait, c'est pas juste, entre guillemets, par éthique ou par morale, en se disant, ce serait quand même bien qu'il y ait plus de femmes et plus de personnes non blanches. En fait, c'est très concrètement la diversité dans le sens très large du terme, est indispensable en fait pour améliorer le fonctionnement de ces logiciels et que ces logiciels répondent davantage aux besoins de la société. Donc, alors oui, il y a un côté un peu déprimant et en même temps, je pense qu'on est quand même dans une époque intéressante dans notre relation avec les nouvelles technologies. Je pense qu'on a longtemps été assez béat face à la Silicon Valley, face à Mark Zuckerberg, etc. Enfin, c'était quelque chose qui,
du coup.
Oui, mais qui nous fascinait, mais à juste titre, parce qu'il ne faut pas remettre en cause leurs accomplissements, dans le sens où voilà, Facebook, si c'est aussi populaire, c'est aussi une machine qui fonctionne très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec différentes affaires, alors il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, il y a eu Snowden il y a un certain temps maintenant, mais il y a eu quand même pas mal d'affaires où on a pris conscience collectivement du fait que ces machines qu'on construisait n'étaient pas parfaites et que c'était en partie aussi lié à ça, en fait, à ce problème de manque de diversité. Et donc maintenant, par exemple, aux États-Unis, il y a un vrai mouvement autour de la syndicalisation des travailleurs de la tech. Et ça, je n'ai pas parlé dans le livre parce que c'est un peu complexe à expliquer à des adolescents, mais je trouve ça super intéressant de montrer que même les travailleurs et les travailleuses de la tech ont conscience, en fait, du fait que leurs objets sont imparfaits et surtout qu'ils ont un véritable impact sur notre société. Par exemple, pour revenir au sujet des ados, il y a un sujet que je trouve intéressant. En 2020 et 2021, il y a eu tout un mouvement de protestation d'ados noirs sur TikTok, notamment aux États-Unis. En fait, ce qu'ils disaient, ces ados, ces jeunes, ils accusaient TikTok de les invisibiliser en fait sur l'application. Et qu'en gros, ils disaient, nous, quand on va sur TikTok, on voit que des gens blancs et on comprend pas parce que ces gens blancs, ils peuvent parfois devenir un peu des stars d'Internet et du coup construire des carrières. Et nous, on sait pas pourquoi, mais on fait la même chose qu'eux et on n'est pas mis en avant. Et c'était intéressant en fait comme réflexion parce que de fait, visiblement, l'algorithme, alors on ne peut que supposer parce que les algorithmes sont des boîtes noires, c'est un sujet qu'on abordera après, oui. Mais effectivement, on peut supposer que l'algorithme de TikTok a tendance à dévaloriser en termes de visibilité les contenus produits par des personnes qui ne sont pas blanches. Alors on peut supposer pourquoi, probablement parce que l'algorithme estime que les personnes blanches sont potentiellement plus populaires, potentiellement plus belles, etc.
TikTok, c'est une application chinoise?
C'est une application chinoise, oui, tout à fait. Oui. Mais après, je parle de TikTok, mais le problème est le même sur YouTube, sur Instagram, oui, etc. Oui. Et du coup, en fait, on est face à une reproduction des inégalités. Là où les idéaux d'Internet étaient de remettre tout le monde un peu au même niveau, entre guillemets, en fait, on se rend bien compte que non, quand on est une personne noire, quand on est une femme, quand on est une femme grosse, quand on est une femme handicapée, quand on appartient à ce qu'on appelle, entre guillemets, une minorité, on a moins de chances d'être visible sur Internet, de réussir sur Internet, et donc potentiellement peut-être de faire sa carrière, peut-être de faire entendre sa voix, etc. Et donc, ces inégalités dans les effectifs conduisent à des inégalités dans les produits qui induisent des inégalités pour les internautes. Donc, c'est toute une chaîne, en fait, à revoir. Donc, c'est déprimant, mais en même temps, il y a des vrais leviers. Et moi, par exemple, pour moi, ce bouquin, le but, c'est d'alerter les internautes, mais je pense que les trois leviers, en fait, doivent être actionnés.
Et alors après ce chapitre, on glisse naturellement sur le chapitre suivant. Est-ce qu'Internet est sexiste ? Où il est question de Google Traduction, de Revenge Porn, des pionnières de l'informatique, des problèmes de modération. Et là, on est aussi bien sur ta spécialité. Donc ça fait combien de temps en fait que tu travailles sur ce sujet des femmes et du numérique ? Et quelles sont les grandes lignes en fait que tu as pu observer ces dernières années ?
Alors, donc moi, je suis journaliste depuis 8 ans. Je dirais que je réfléchis au sujet des femmes dans la tech depuis un petit peu moins longtemps, je dirais peut-être 6 ans. En fait, c'est venu de... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant quand on parle de la place des femmes sur Internet, c'est qu'encore une fois, il y a un sujet, mais il y en a 1000. Donc, je vais essayer de synthétiser un peu. Mais déjà, moi, un truc que j'ai découvert en fait en tant que journaliste, en faisant des interviews, en faisant des enquêtes, etc., c'est que j'avais cette préconception, mais qu'on a tous et toutes, je pense, de croire qu'Internet et que les nouvelles technologies étaient de manière inhérente masculines. Par exemple, je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un geek. J'imagine que vous avez imaginé un homme avec des lunettes, pour reprendre le cliché, le cliché qu'on voit beaucoup dans les films. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'informatique, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. L'informatique, à ses origines, c'était un métier féminin. Parce que l'informatique s'est d'abord développée dans les milieux militaires, c'était un métier d'intérieur, c'était un métier qui n'était pas très valorisé, c'était beaucoup un métier de ce qu'on appelait des petites mains. Enfin, ces petites mains étaient ingénieurs, hein, mais c'était quand même des petites mains. Et du coup, c'était plutôt un métier qui était valorisé pour les femmes. Parce que c'était des femmes qui programmaient des ordinateurs un peu loin des regards. On est dans les années 50, c'est quand même mieux qu'une femme soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, etc., etc. Et en fait, je reprends des... Il y a un livre que je vous recommande si vous êtes adulte, parce que pour le coup, pour les ados, c'est un peu compliqué. C'est le livre Les oubliés du numérique d'Isabelle Collet, qui est une chercheuse qui se spécialise dans la place des femmes dans le numérique, justement. Et elle explique très bien qu'en fait, quand on regarde le nombre de femmes ingénieures en informatique dans les années 50, 60, 70, en fait, il commence à y avoir une vraie baisse à partir des années 80. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 80...
Une vraie baisse de...
Du nombre de femmes ingénieures informatiques. D'accord. Alors que la proportion des hommes augmente petit à petit jusqu'à les dépasser complètement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les années 80, il s'est passé une chose, c'est que les jeux vidéo ont commencé à exploser. On a commencé en fait à vendre des jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo. Et les premiers jeux vidéo, c'était quoi ? C'était des jeux vidéo de sport. Or, le sport, encore un milieu qui est traditionnellement associé aux hommes. Et donc, du coup, on a commencé à vendre des jeux vidéo c'était des jeux vidéo de ping-pong, de tennis, de courses, de voitures. Et donc, ça a été marketé pour les jeunes garçons. Donc, on a commencé à mettre dans les foyers des consoles de jeux pour les petits garçons. Et en fait, des consoles de jeux, c'est un portail vers l'informatique, hein, je veux dire. Au même moment, l'informatique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a commencé à prendre en importance économiquement, en termes de réputation. Les métiers ont commencé à être mieux valorisés. Et donc, comme par magie, les hommes sont venus petit à petit prendre la place des femmes. Et ça, moi, c'est un truc dont je n'avais pas du tout conscience, hein, je l'avoue. Je ne le savais pas. Pour moi, dans ma tête, ça avait toujours été un truc de mec, entre guillemets. Et ça a vraiment provoqué un vrai sentiment d'injustice et de colère en moi. Et je pense que expliquer ça déjà, c'est faire prendre conscience d'à quel point on part de loin, et aussi du fait qu'en fait l'informatique, les nouvelles technologies nous appartiennent, nous femmes, tout autant qu'aux hommes, et qu'en fait les hommes ne sont pas prédestinés à l'informatique, plus doués que nous à l'informatique. On nous a appris maintenant que on était moins bonnes qu'eux à ce truc-là, mais c'est pas vrai du tout en fait. Donc ça c'est l'aspect historique. Et puis après, si on revient à aujourd'hui, quand on parle des femmes sur Internet, en fait, on reprend un peu les mêmes sujets qu'on a abordés pour le racisme, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le sexisme qui est similaire à celui du sexisme dans la vie physique, c'est-à-dire quand on est une femme sur Internet, on a plus de risques de se faire harceler, en plus de subir du harcèlement qui est sexiste. Donc voilà, quand on est une femme, a priori, on va se faire attaquer sur son physique, sur... je vais pas le dire à l'antenne, mais voilà, ce genre d'insultes violemment misogynes. Et de l'autre côté, il y a ce sexisme algorithmique. Et donc, tu citais l'exemple de Google Traduction. Moi, c'est un exemple que je trouve absolument fascinant. Google Traduction, en 2018, a dû subir une petite polémique parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Google Traduction, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le service de traduction automatique de Google, donc c'est très pratique, on met une phrase dans une langue, il nous le traduit dans une autre. Et en fait, Google Traduction, il est entré notamment sur des livres, sur plein de livres libres de droit, etc., ou sur des sites internet, enfin Google le fait travailler un peu à longueur de temps. Et en gros, on s'est rendu compte un jour que Google Traduction avait tendance à genrer les métiers qu'il traduisait d'une manière qui était assez sexiste. Donc par exemple, pour une langue qui est très genrée comme le français, si il y avait le mot « nurse » en anglais, donc infirmier ou infirmière, il traduisait par « une infirmière ». Par contre, « a doctor », il traduisait automatiquement par « un docteur ». Et pas un ou une docteur. Alors pourquoi personne n'a dit à Google Traduction « soit sexiste ». Ce qui s'est passé, c'est que Google Traduction a été entraîné sur... des sites internet, sur des documents qui étaient sans doute eux-mêmes sexistes, dans le sens où on est dans une société sexiste et qu'effectivement, on a tendance à associer les docteurs aux hommes et les infirmières aux femmes, quand bien même y en a de tous les genres. Et donc, puisque Google n'avait pas détecté ce biais, il ne l'a pas corrigé, et donc Google Traduction a perpétué ce stéréotype. Et ça, c'est un très bon exemple de comment les machines peuvent se retourner contre nous, quand bien même on s'en sert... Pour tout un tas de choses, quoi.
Oui, c'est un bon exemple. Et il y a bien sûr un chapitre sur les fausses informations, mm-hmm. parce que là, c'est un gros sujet aussi. Les fake news, donc très, très intéressant, où tu décryptes un certain nombre de causes de ces fausses informations, mais aussi leurs objectifs et la façon dont elles sont construites, avec les deepfakes aussi, et puis quelques pistes et règles de base très utiles sur comment vérifier une information. Donc ça, je crois qu'il faut le dire, le redire, le re-redire. Mais là, au moins, c'est bien écrit noir sur blanc, parce qu'on se passe comme ça de temps en temps, les uns les autres décident des trucs pour vérifier une vidéo. Est-ce que c'est une vidéo vraiment qui correspond à la date et à l'événement, ou est-ce que c'est quelque chose qui date et qui a été récupéré? Donc tout ça, c'est très utile. Et là aussi, donc, j'y ai découvert pas mal de choses. Et ce qui est difficile, c'est que ça aussi, en fait, ça évolue tout le temps. Ces histoires de fake news, la façon dont elles sont fabriquées, qu'est-ce qui les motive, qui les répand, c'est une espèce de nébuleuse qui est en perpétuelle évolution.
Alors, c'est en perpétuelle évolution, et en même temps, les deux leviers principaux de la désinformation, alors qui touchent adultes et enfants de manière vraiment équivalente, hein, parce que là c'est un livre pour ados, mais je crois vraiment pas que les adultes ont des leçons à donner aux ados à non. ce niveau-là. Il y a deux leviers principaux, qui est le levier politique, dans le sens où il y a des hommes et des femmes politiques, quand je dis politique c'est au sens large, hein, je parle pas que de politiciens mais aussi de militants, qui ont tout intérêt à manipuler des informations et à profiter de ce phénomène de bulle de filtre dont on a parlé tout à l'heure pour convaincre une personne de leur cause. Et puis ensuite il y a le levier économique. On a parlé tout à l'heure des bulles de filtre qui étaient provoquées par le fait que Facebook veut nous faire rester le plus longtemps possible chez lui. Facebook, Google, YouTube, enfin toutes ces plateformes-là. Oui. Et en fait, ce phénomène, il est complètement... Il a donné naissance à toute une industrie dont le but, en fait, est de produire des contenus qui vont faire réagir. Mais peu importe le type d'information, ça pourrait être d'extrême gauche, d'extrême droite, tant que ça fait réagir, ça fait réagir. Il se trouve que les contenus qui sont vraiment très à droite ont quand même tendance à... tous les trucs très outranciers, en fait, très racistes, très sexistes, etc., ont tendance à faire réagir.
Oui, ça fait plus de buzz.
Et donc voilà,
ça,
ils sont ultra viraux. Mais ces mécanismes-là, je pense qu'on n'en a pas forcément conscience, parce que la force de la désinformation, c'est de nous confirmer ce qu'on pense déjà être vrai. C'est-à-dire que c'est ça, hein, le principe de la désinformation, c'est que j'ai plus avoir tendance à me faire avoir par un truc qui va confirmer mon propre biais, parce qu'on est tous des personnes biaisées, c'est normal, c'est comme ça que fonctionne le monde. Et c'est pour ça que ce chapitre, pour moi, il était important, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ados, mais aussi d'adultes, qui vont propager de la désinformation en pensant bien faire, en fait, ou en prenant pas deux secondes pour y réfléchir, mais ce qui est normal, parce que le but, c'est de ne pas nous faire réfléchir. C'est vraiment, enfin, si on ne réfléchit pas, c'est parce que ça fonctionne bien. Et que je pense que nous, en tant que citoyens, on n'est pas coupables de ça. C'est toute cette industrie et c'est toutes ces plateformes qui laissent proliférer ces industries aussi. Voilà, c'est vrai que moi, à travers ce chapitre, je voulais faire un peu ouvrir les yeux, donner quelques outils, mais aussi faire réfléchir vraiment à ce levier économique qui est super important et dont on n'a pas encore trop conscience, je pense. Alors en octobre, il y a eu Frances Haugen, qui est une ancienne ingénieure de Facebook, qui a lancé l'alerte, qui est une lanceuse d'alerte et qui a révélé plein de documents confidentiels qui ont confirmé ça, hein, qui ont confirmé que Facebook a tout à fait conscience que son modèle a tendance à encourager les contenus néfastes. Mais donc voilà, tout le monde, je pense, malheureusement, n'écoute pas Frances Haugen parce que voilà, c'est un peu compliqué ce qu'elle raconte. Donc le but de ce chapitre, c'était aussi de synthétiser un peu ce genre de choses, quoi.
Oui. Et ensuite, avec les chapitres « Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux sociaux ?» et « Pourquoi ne voit-on pas de personnes grosses sur Instagram ?» Donc tu apportes des réponses aussi très précises et je trouve que ce sont des données non seulement intéressantes à connaître, mais qui permettent aussi de dédramatiser ces effets, de prendre un peu de recul, notamment pour les ados dont l'estime de soi, souvent fragile, peut se prendre de plein fouet tous les effets pervers des réseaux sociaux. Tu cites d'ailleurs une enquête révélée par le Wall Street Journal en septembre 2021 qui dit que 32% des adolescentes interrogées qui se sentaient déjà mal dans leur peau estiment qu'Instagram a empiré les choses et certaines en ont même développé des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, ce petit livre, il aide aussi à prendre de la distance parce qu'à partir du moment où on comprend mieux comment ça fonctionne, ça aide à dédramatiser, je trouve, et cette distance, c'est ce qui peut manquer souvent, non ?
Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on manque de distance. Je pense aussi qu'on a tendance à soit sous-estimer, soit parfois surestimer le poids des réseaux sociaux dans le rapport des ados à leur corps. Des adolescentes complexées à cause des magazines, ça a toujours existé malheureusement parce qu'on est dans une société qui est sexiste et qui met en avant un modèle de femme auquel quasiment aucune femme ne peut correspondre en fait. Hein. C'est comme ça que ça marche. Le truc des réseaux sociaux, c'est que on donne la possibilité à plein de gens d'avoir leurs propres médias et du coup de reproduire un peu ces inégalités, mais autres en les calquant sur sa propre vie. Et du coup, c'est pour ça que moi je voulais faire ces deux chapitres sur le rapport au corps et aussi sur la place des personnes grosses, parce que je pense que c'est facile, quand on est ado et adulte d'ailleurs, de se faire un peu avoir par cette illusion de la réalité sur les réseaux sociaux, parce qu'on se dit, pourquoi cette fille, elle est si belle, pourquoi est-ce qu'elle a une vie si sympa, une maison si sympa, etc. Parce qu'en fait, cette fille, a priori, elle est influenceuse et c'est son métier, en fait, d'avoir l'air plus jolie, de se mettre en scène, etc. Et qu'en fait, les réseaux sociaux sont une autre forme de télé-réalité. Mais je pense qu'on en a un peu moins conscience qu'à la télé ou que sur les magazines, parce que vu que moi aussi je peux avoir un compte Instagram et moi aussi je peux me mettre a priori en scène, je crois que cette fille est comme moi, alors qu'elle ne l'est pas, parce que moi mon métier c'est pas d'être influenceuse. Mais il est compliqué ce sujet et je pense qu'en fait il faut en parler. Il faut en parler aux ados plutôt que soit de pas écouter leur douleur, soit de les moquer, soit au contraire de les croire victimes. Je pense que pas mal d'ados réfléchissent déjà à ce sujet. Je pense que parfois ce qui peut manquer, encore une fois on en revient à l'aspect économique, hein, c'est un peu mon obsession, mais je pense qu'il y a parfois l'effet économique, le levier économique qui est moins connu, c'est-à-dire encore une fois on veut faire rester les gens sur Instagram, donc Instagram va montrer ce qu'ils pensent être populaire, et ce qu'ils pensent être populaire c'est des stars fines, blanches, etc.
Oui, parce que c'est très stéréotypé en plus, hein.
C'est très stéréotypé mais c'est pas une fatalité. Par exemple, c'est marrant, je parlais hier avec une jeune femme qui m'expliquait qu'elle avait carrément entraîné son algorithme Instagram à lui montrer d'autres personnes. Ce qu'elle a expliqué, moi je suis grosse, je suis noire, j'ai envie de... j'en avais marre en fait de voir des gens qui me ressemblaient pas. Et donc elle a, vu qu'elle a tout à fait conscience de cette, la place de cet algorithme, elle a dit, moi j'ai entraîné mon algorithme à me montrer que des gens qui me ressemblaient un peu, etc. Enfin, elle s'est créé un peu sa propre bulle de filtre de toute seule. Et pourquoi pas, et je trouve ça intéressant comme...
Donc entraîner son algorithme, peut-être que tu peux nous dire, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on peut entraîner son algorithme.
Alors, c'est pas une science exacte, hein, mais
non,
en gros...
Non, mais quand même, ça marche un peu, puisque les bulles de filtre, c'est un peu ça aussi.
Voilà.
C'est qu'on entraîne nos algorithmes malgré nous, là, pour du coup, mais...
Bah, on peut le faire volontairement, dans le sens où, effectivement, si vous likez en boucle pendant 2 jours, j'en sais rien, moi, que des comptes dédiés aux chatons, je veux dire un truc bête, bah il est fortement, il est probable qu'Instagram dans une semaine ne montrera que des photos de chatons, parce que vous avez dit à l'algorithme je ne veux voir que ça. Après bon, ça c'est réduire un peu le problème, parce qu'en fait Instagram se sert d'énormément de signaux, y compris en dehors d'Instagram, pour savoir qui je suis et ce que je veux faire. Mais il y a tout un phénomène maintenant de jeunes internautes qui cherchent à entraîner leurs algorithmes à défaut de pouvoir les comprendre. Et ça c'est tout un sujet, c'est que je pense que maintenant, on commence à avoir conscience du poids des algorithmes. Le truc, c'est qu'on peut toujours pas les ouvrir. Les algorithmes, c'est des boîtes noires, c'est des secrets industriels qui sont créés par des entreprises de nouvelles technologies qui ne nous permettent pas de les voir. Alors, il y a des lois, de plus en plus, qui les forcent à un peu plus de transparence, mais c'est quand même un process compliqué. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi, parce que si on comprenait, si on savait exactement pourquoi est-ce qu'un algorithme propose, par exemple, tel ou tel contenu sur Instagram, ce serait beaucoup plus facile d'en détecter les biais, de se dire, bah... Comment ça se fait que tel algorithme il me propose que ce genre de contenu? Bah parce que cet algorithme est biaisé pour privilégier ce genre de contenu, et qu'Instagram a remis en avant ce contenu parce qu'il sait que je sais pas moi, c'est lié à un contrat publicitaire. Enfin, il y a plein de critères en fait qui peuvent rentrer en compte. Mais bon, bah, à défaut d'avoir cette transparence, on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'entraîner nos algos à faire des tours, quoi. Mais c'est une solution, mais c'est pas une solution sur le long terme.
Et cette jeune femme dont tu parlais, donc est-ce que ça a marché, l'entraînement de son algorithme?
Bah, pas mal, visiblement, ouais. Oui. Apparemment, elle dit, bah, je suis mieux sur Instagram, quoi.
Bon, bah, c'est intéressant de donner cette petite clé, comme quoi c'est possible de déjouer un peu les... Et en fait, il y a un sujet, je sais pas, j'ai réalisé que, il me semble que je l'ai pas vu dans ton livre, mais j'ai tilté parce qu'en allant justement sur Numérama, qui publie ta newsletter, j'ai vu ça sur la page d'accueil du site tout à l'heure, c'est les placements de produits auprès des influenceuses. Mmh. Parce que ça, c'est quand même aussi un gros sujet, je trouve.
Complètement, ça c'est un vrai sujet. J'ai pas eu la place de l'aborder dans le bouquin, mais c'est un vrai sujet parce que je reprends ma comparaison avec la télévision. À la télévision, les publicités donc existent, sont très nombreuses, mais sont bien délimitées, dans le sens où quand même la plupart du temps, on va avoir un espace pub, on va avoir un écran, c'est l'heure de la publicité, on va avoir des pubs. Sur les réseaux sociaux, tout est beaucoup plus flou. C'est-à-dire que oui, il y a les espaces publicitaires classiques qui vont s'intercaler entre nos contenus, donc ça on identifie bien a priori que c'est de la pub. Et puis après, il y a les publicités, ce qu'on appelle le sponsoring, hein, des marques qui vont payer en fait des influenceurs, des influenceuses pour faire la promotion de leurs produits. Sauf que faire la promotion, c'est pas forcément dire Babybel m'a payé pour vous parler du fait que Babybel c'est un super fromage. Un exemple au pif, ça peut être par exemple je suis payé par Babybel et donc sur tous mes prochains posts je vais faire en sorte qu'il y ait un Babybel qui traîne, sans le dire, sans l'expliciter. Et ça en fait c'est illégal, en France en tout cas, en France il y a des lois, hein, qui forcent normalement les influenceurs et les influenceuses à dire clairement quand ils sont payés par une marque pour produire un contenu. Et ça, on en a moins conscience parce que ce genre de publicité, ça floute en fait complètement le rapport à la pub, et que du coup, le pouvoir d'influence est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les annonceurs aiment bien investir dans ce genre de publicité. C'est beaucoup plus c'est invisible, plus c'est efficace a priori.
Ben oui, c'est ça. Et dans l'article dont je parlais tout à l'heure, justement, le sujet, c'était sur le fait que beaucoup d'influenceuses ne déclarent pas le fait qu'il y a du placement de produits. Mmh. Parce qu'en fait, il y en a de plus en plus du placement de produits de cette manière déguisée dans les séries télé. Il y en a sur Netflix, il y en a au cinéma maintenant. Donc, c'est vrai qu'on ne peut plus beaucoup y échapper. Il me semble que sur Netflix, ils ont l'obligation maintenant de signaler au début de la série qu'il y a du placement de produits.
C'est écrit qu'il y a ils appellent ça une annonce commerciale ou un placement commercial, je crois le terme exact. Mais oui, il y a un tout petit truc qui est indiqué, mais bon.
Et ensuite, on a... Le numérique est-il dangereux pour la planète? Donc là aussi, le ton n'est pas moralisateur, c'est un état des lieux et une invitation plutôt à se responsabiliser en comprenant les enjeux un peu mieux.
Tout à fait. Alors le sujet du numérique et de l'écologie, c'est un sujet qui Je crois que c'était l'un des chapitres les plus difficiles pour moi d'écrire parce que c'est un sujet sur lequel c'est très difficile d'avoir des informations en fait, concrètes. C'est aussi des sujets sur lesquels il y a beaucoup de lobby, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Je veux dire, selon à qui on va interroger, on va pas du tout avoir les mêmes chiffres, le même constat. Et donc du coup, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Moi, je suis assez contre le discours qui dit... Attention, envoyez moins de mails, faites attention de, je sais pas moi...
Pas mettre de signature avec un visuel.
Voilà, pas mettre
ou
de
tout ça.
Signature, arrêter d'aller sur YouTube.
Maintenant, on nous demande même de plus dire merci quand on reçoit des mails,
c'est
ça fait un mail en moins.
Moi, je trouve ça, bon, déjà, un peu ridicule, et deux, je trouve que c'est un peu l'arbre qui masque la forêt, sans un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que quand on parle, ce qui est certain, c'est que quand on parle de numérique et de d'écologie, les premiers responsables, comme... sur l'écologie en général, c'est les entreprises. C'est le poids des entreprises. Et alors, il y a des vrais débats hein, pour savoir à quel point tout ce qui va être cloud, donc l'informatique dématérialisée, c'est-à-dire en gros toutes nos données qu'on va consommer sur Internet sont hébergées dans des... pour le dire très vite, hein, dans les centres de données qui consomment beaucoup d'électricité. En fait, on ne sait pas exactement quel est ce poids en fait, de ces données sur la consommation d'électricité mondiale, etc. Enfin, c'est assez flou. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans une société de surconsommation, particulièrement de surconsommation numérique, et que autant moi ça m'énerve qu'on dise aux gens arrêtez de regarder les vidéos YouTube, parce que je pense que c'est vraiment c'est un peu comme quand on engueule les gens pour qu'ils fassent pipi sous la douche. Je préférerais qu'on force Total à par exemple moins polluer. Par contre, dire à un ado. En fait, tu n'as peut-être pas besoin de changer de smartphone tous les ans, parce qu'un smartphone s'est produit dans des conditions qui sont désastreuses pour l'environnement et pour la vie la vie d'enfant aussi, hein, parce que malheureusement, la manière dont on fait les smartphones actuellement, c'est que ça implique l'extraction de métaux rares, et qui est très difficile à décorréler en fait, du travail d'enfant dans des mines. Et qu'en plus, ces smartphones-là, ils se recyclent très mal. Que pour te parvenir, ils font trois fois le tour du monde, le temps d'être construit, d'être
marketé.
Bon.
Toutes les pièces.
Donc en gros, change pas d'iPhone tous les ans. Un, ça sert à rien. Deux, ça pollue énormément. Cela étant dit, si on a envie de changer d'iPhone tous les ans, c'est à cause de qui avant tout? C'est d'Apple. D'Apple qui fait son marketing à fond sur le fait que voilà, le nouvel iPhone est toujours le meilleur, le plus au point, etc. Et surtout, on sait en fait que alors il n'y a pas qu'Apple, hein, que tous les géants des nouvelles technologies construisent des produits qui ne sont pas faits pour durer en fait. Qui non seulement ne sont pas faits pour durer, mais qu'on ne nous encourage pas à faire perdurer. Je veux dire,
j'ai fait un podcast avec Hop,
bah voilà.
Halte à l'obsolescence programmée, où on en a parlé. Et effectivement, le numérique, c'est quand même, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'ils ont la palme pour ce type d'usage, de pousser à la consommation et en plus de la consommation de produits qui sont conçus pour ne pas durer.
C'est ça, ouais. C'est très difficile en fait de consommer de manière éthique dans les nouvelles technologies. Je veux dire, moi, je connais une entreprise de smartphone qui essaie de faire ça, c'est Fairphone, mais qui, de son aveu, hein, dit que c'est très difficile et qu'ils n'arrivent même pas à vérifier complètement l'intégralité de leur chaîne de montage, parce que ce qui paraît délirant, hein, de ne pas pouvoir contrôler complètement de A à Z le produit qu'on fait. Donc voilà, en tant que consommateur, on a ce truc à se dire, bah, si ma télé marche plus, est-ce que je dois vraiment la remplacer? Mais au final, le problème, il est structurel. Et que, par exemple, c'est l'illustration de Mirion sur ce chapitre, je l'aime bien, on voit une caricature de Jeff Bezos qui est dans la Lune et qui dit surtout, n'oubliez pas d'envoyer moins de mails pour sauver la planète. Pour moi, c'est assez symptomatique. Effectivement, pendant que Jeff Bezos et Elon Musk veulent absolument envoyer même pas envoyer des fusées sur la Lune, juste veulent aller à la toute limite de l'espace pour se faire mousser, ben en attendant, on est en train de construire un avenir catastrophique et leurs entreprises en sont partiellement responsables, quoi.
D'où le film sur Netflix aussi avec Don't Look Up. C'est Don't Look Up.
Don't Look Up, ouais. Après, Don't Look Up, il est très pessimiste et moi, je crois vraiment à la force du collectif et je crois en la prise de conscience.
Non, mais je pensais par rapport à ce personnage
Bien
qui
sûr.
Représente
ah bah oui.
ces mecs milliardaires et qui ont toujours des formidables fausses idées technologiques pour régler les conséquences et surtout pas les causes.
Et qui sont en fait pour leur profit économique. Don't Look Up, c'est ça, hein, c'est qu'il y a le méchant de l'histoire, entre guillemets, un intérêt économique à pousser une idée plutôt qu'une autre. Donc voilà, ouais, c'était un chapitre qui était difficile, mais j'espère avoir réussi à rester nuancé et donner les infos, mais
Oui, et puis ça donne envie, ça peut donner envie d'aller plus loin aussi. Mm-hmm. Après, charge à chacun d'aller chercher des livres spécialisés pour ceux qui sont intéressés plus par rapport à une consommation numérique plus éthique. Enfin, maintenant, il y a des ouvrages un peu sur tout ça. Et tu nous parles aussi de Bitcoin avec des mises en garde. Quels sont les risques aujourd'hui du Bitcoin et pour les ados? Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Et je ne pensais pas que ça touchait déjà la population des ados.
Alors le Bitcoin, c'est l'exemple le plus connu de ce qu'on appelle des crypto-monnaies, qui sont en fait des formes de monnaie ou d'actifs qui reposent donc sur la blockchain. Je le fais très rapidement, mais en gros, ça repose sur un réseau informatique décentralisé. C'est-à-dire que plutôt qu'un seul ordinateur ou qu'une seule entreprise décide de comment ça va fonctionner, c'est tous les ordinateurs de tous les utilisateurs qui vont faire fonctionner ce réseau. Voilà. C'est très très vite dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et en gros, la raison pour laquelle je voulais parler de crypto-monnaie dans ce livre, c'est que je pense qu'on en revient au sujet des influenceurs. Moi, j'ai vu beaucoup en fait, d'influenceurs et d'influenceuses commencer à parler en fait, de crypto à leur jeune audience en disant, en gros, en portant des discours très de richesse, en disant, en gros, investis dans ce truc et tu deviendras super riche en 2 semaines. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Et du coup, pour moi, c'était important de parler de la crypto-monnaie pour déjà parler de leurs origines, parce que quand on regarde l'histoire du Bitcoin, c'est assez intéressant en fait. Hein, le Bitcoin, c'est né dans les cendres de la crise de 2008 sur des idéaux assez nobles hein, de construire une monnaie qui soit en dehors de l'influence des banques. Mais c'est un projet qui a pris plein de chemins différents, et notamment le chemin de la spéculation. Et quand un influenceur ou une influenceuse dit à un ado ou un jeune internaute « Investis dans telle crypto-monnaie, tu vas devenir riche », en fait, il lui ment, parce que c'est possible de devenir riche en investissant dans la crypto, mais c'est pas comme ça que ça se fait, et ça demande en fait des connaissances très élevées. Quoi. Donc,
Et puis, il y a beaucoup d'arnaques, apparemment.
Il y a énormément d'arnaques sur le sujet, et qui visent notamment un public jeune. Il y a certains, alors c'est pas tout ça, mais il y a certains projets crypto-monnaies qui ressemblent clairement à ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi, donc c'est vraiment les arnaques pyramidales où en fait le but c'est de convaincre deux personnes en dessous de soi d'investir, et au final personne ne gagne de l'argent et tout le monde perd quoi. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un chapitre là-dessus, parce que en fait je pense que ce livre en général, son but c'est de montrer que en fait le numérique nous concerne tous et toutes, et on a tous et toutes quelque chose à dire sur le numérique, même si on n'est pas geek, même si on ne s'y connaît pas. Parce que je pense que c'est un peu un cliché assez commun de se dire bah, « moi je ne m'y connais pas en informatique et tout, donc en gros ça me concerne pas et je n'ai pas d'opinion sur le sujet. » Alors qu'en fait...
Je consomme et je ne réfléchis pas.
C'est ça, alors qu'en fait... on a, en France en tout cas, on est très nombreux à avoir un smartphone, à aller sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, à ce titre-là, en fait, on est consommateur et consommatrice, et donc on a le droit en fait, à avoir une opinion sur le sujet et à comprendre comment ça fonctionne. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas intérêt à ce qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc voilà, je pense que le Bitcoin, les cryptos, c'est l'un de ces sujets de se dire « oui, c'est complexe ». Je vais pas te dire si c'est bien ou mal, mais juste je vais t'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'en fait ça te concerne aussi, puisque tu vois des contenus qui vont faire la promo de crypto sur les réseaux, et ensuite à charge à toi de décider ce que tu en penses.
Parmi les grands sujets, on trouve aussi un chapitre sur la cancel culture, sur pourquoi la modération des réseaux sociaux est-elle si nulle, sur comment se protéger du cyberharcèlement, et on a l'impression aujourd'hui que l'on ne peut que subir tout ça. Mais il existe quand même des réponses concrètes que tu donnes. Mais est-ce que des progrès ont vraiment été faits par rapport à ces sujets-là? Par exemple, le traitement des plaintes. On a longtemps entendu qu'en fait, c'était même pas la peine de... Moi, combien de fois j'ai entendu des amis qui transmettaient des signalements de cyberharcèlement à YouTube ou à Twitter, et qu'en fait, rien ne suivait. On peut donner aujourd'hui des plaintes aussi. Il y a une plateforme pour...
Pharos.
Les victimes de, voilà, Pharos, de cyberharcèlement grave avec des menaces. On en est où?
Alors, est-ce que les choses se sont améliorées? Non. Est-ce que les choses ont bougé? Oui. Dans le sens où, en fait, t'as raison de dire que oui, effectivement, ce qui se passe dans la vie physique, si on se fait harceler dans la vie physique, on a peut-être un peu plus de recours que dans la vie numérique. Moi, je pense qu'Internet n'invente rien. Par contre, Internet accélère. Dans le sens où, les faits de harcèlement que je peux subir dans la rue, en fait, c'est les mêmes mécaniques, misogynes que je peux subir sur Internet, mais de manière décuplée. C'est-à-dire qu'a priori, je ne vais pas me retrouver devant 1000 personnes qui vont m'insulter dans la rue, alors que sur Twitter, ça peut m'arriver assez facilement. Je pense que les choses, malheureusement, ne s'améliorent pas beaucoup. Par contre, le discours qu'il y a sur le sujet a beaucoup évolué, dans le sens où déjà on en parle. Alors que les trucs de la modération en ligne, par exemple, c'est vraiment un sujet, il y a 5, 6, 7 ans, on n'en parlait pas beaucoup. C'était vraiment pas trop un sujet. C'était un non-sujet.
Maintenant, ça se passait dans l'ombre.
Voilà. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, déjà, il y a beaucoup de victimes qui prennent la parole, qui expliquent ce qui leur arrive et qui expliquent le manque de recours qu'elles subissent. Il y a pas mal de gouvernements aussi dans plein de pays, y compris en France, qui tentent d'imposer des nouveaux modèles de modération. Alors, c'est pas forcément bien ou mal, mais en tout cas, il y a une prise de conscience politique sur le sujet. Et puis, il y a une pression, en fait, qui est faite sur les plateformes, qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Par exemple, la justice française a réussi à forcer Twitter à révéler au niveau mondial le nombre de modérateurs que Twitter embauche.
Ça, c'est un pas.
C'est pas rien. Non, mais c'est un pas, mais c'est pas rien, mine de rien. Et je veux dire,
c'est un vrai pas.
Voilà. Et ça, cette plainte, c'était à l'origine des collectifs, si je me rappelle bien, de lutte contre l'antisémitisme et de militantes féministes qui ont porté plainte et qui ont eu gain de cause. Donc, on en revient à la force du collectif. Moi, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Je pense que ça bouge lentement, mais ça bouge. Et puis après, il y a aussi tout ce qui se fait dans la société civile. Par exemple, à un moment, je parle des nudes, donc le fait de s'envoyer des photos nues à son copain ou sa copine, et le problème du revenge porn, qui est ce phénomène absolument effroyable, très majoritairement de jeunes garçons qui vont en fait transmettre des photos de leur ancienne copine intime sans leur consentement, un peu sur Internet. Et je cite l'exemple d'un collectif qui s'appelle Stop Ficha, qui est un collectif de jeunes femmes qui un jour on en dit en fait on en a marre de tout ça, on voit bien qu'il n'y a rien qui bouge. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un collectif dans lequel en fait elles chassent un peu les comptes, ce qu'on appelle les comptes Ficha, qui sont des comptes qui collectent un peu ces photos intimes et qui les diffusent, et en fait elles les signalent en masse jusqu'à ce qu'ils tombent. Et bon, alors oui,
elle les signale à qui?
Elle bosse pratiquement sur Instagram et sur Telegram aussi, qui est une application de messagerie qui a un système de réseau social. Et donc, quand elle découvre ce genre de choses, en fait, elles font des signalements déjà à Pharos, donc qui est la plateforme de signalement des crimes en ligne du gouvernement, et elle le signale aux réseaux sociaux. Et alors, ça marche pas à tous les coups, mais parfois ça marche parce qu'en fait, il est possible de s'organiser. Alors, encore une fois, je préférais être dans un monde dans lequel les plateformes prennent leurs responsabilités sur ce sujet, mais c'est quand même intéressant de voir que les internautes s'organisent en tout cas et ne baissent pas les bras face à ces phénomènes qui sont des phénomènes qui sont très graves, quoi. Alors après, pour mettre un peu de l'eau dans mon vin, la modération en ligne, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, notamment parce que elle doit se faire à des échelles immenses. Je veux dire, on parle
Tu l'expliques bien d'ailleurs dans le petit livre. Hein. Oui.
Et donc c'est pas un problème qu'on réglera en un claquement de doigts. Et il y a plein de manières d'envisager d'améliorer les choses, mais au moins on en parle. Et moi je trouve que en parler c'est déjà un premier pas important, et surtout impliquer toutes les personnes de la société, pas seulement les politiques, pas seulement les experts. Moi, si mon père pouvait avoir un avis sur la modération en ligne, ça me ferait très plaisir, par exemple. Mais vraiment, et même les personnes qui s'y connaissent pas, parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. C'est vraiment un problème, et tous les problèmes du numérique nous concernent tous et toutes.
Et tu rappelles d'ailleurs dans ce petit chapitre que l'anonymat n'existe pas. Moi, j'ai été étonnée de lire ça.
Tout à fait, ouais. C'est souvent le réflexe qu'on a quand on parle de délits en ligne. Par exemple, quand on parle de haine en ligne, on se dit si tout le monde dit son vrai prénom, il n'y aurait pas de souci. En fait, il y a plein d'études qui montrent que c'est faux, qu'il y a plein de gens qui publient des saloperies, pardon pour ma vulgarité, sous leur vraie identité. Et que par ailleurs, en fait, les réseaux sociaux sont tenus très régulièrement par la justice de transmettre les données en fait, de personnes qui commettent ce genre de délit. Donc en fait, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. En tout cas sur Facebook, sur Twitter, etc., c'est faux.
Et alors, quels sont les sujets que tu trouves les plus préoccupants aujourd'hui, là, au moment où on parle?
Sur Internet?
Oui.
La question de la place des femmes sur Internet me préoccupe beaucoup. Alors bon, déjà parce qu'il me concerne directement. Aussi parce que je pense qu'on est quand même... On est en train de construire un futur qui nous exclut encore et de manière automatisée. C'est ça en fait le danger, c'est que combattre la misogynie au quotidien de la part de vraies personnes, c'est compliqué. Mais alors en plus, quand on doit affronter la misogynie des robots qui est automatique et non transparente, bon, c'est
oui, et qui vont perpétuer de façon mathématique.
C'est ça. Et qui vont moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui me préoccupe beaucoup parce que je pense qu'on est beaucoup à ne pas en avoir conscience, et qu'aussi il y a un documentaire que pareil, j'ai pas recommandé dans le bouquin parce que je pense qu'il est un peu dur pour des ados, mais qui s'appelle Sale pute, un documentaire qui est sorti il y a quelques mois sur Arte. Vous tapez Arte sale pute, vous le trouverez, et qui parle de cyberharcèlement justement. Et il y a l'une des personnes qui est interviewée qui est, je crois, une députée allemande qui a subi une grosse campagne de cyberharcèlement, qui dit très justement, en fait, on est en train de faire disparaître les voix des femmes d'Internet. C'est-à-dire que déjà qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup notre mot à dire dans la rue, et en plus sur Internet, un espace où a priori on pourrait s'affranchir un peu de ces problèmes, on nous demande de nous taire aussi, quoi. Et ça me préoccupe beaucoup. Ouais.
Mais pour rejoindre ce que tu dis, j'ai lu il y a une semaine ou deux une interview de Sandrine Rousseau, responsable dans le mouvement écologiste, qui a subi une grosse campagne de
harcèlement.
Ouais. D'ailleurs, je n'étais pas au courant que ça avait pris une telle ampleur. Et ce qui m'a le plus choquée, en fait, dans ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait qu'elle n'avait eu de soutien ni des femmes en général, ni de son parti politique, ni des femmes des autres partis politiques qui auraient pu manifester de la solidarité par rapport à ça. Et je me suis dit, mais c'est quand même bien affligeant.
C'est affligeant, et puis ça, on en revient à... Voilà, Internet, c'est la vraie vie, hein, dans le sens où ça a des conséquences, en fait, sur la vie des gens.
Et comme quoi, il faut quand même qu'on s'active sur cette notion de solidarité pour faire bouger les choses.
Bah, il faut non seulement y réfléchir, mais il faut demander des choses. Et notamment, quand je parlais du collectif Stop Ficha, l'une de leurs revendications, c'est, elles, justement, elles aimeraient que Pharos, la fameuse plateforme Pharos, qui est la plateforme de signalement des contenus illégaux en ligne du gouvernement, ait plus de moyens. Elles le disent, nous on trouve que Pharos, quand ça fonctionne bien. Sauf que Pharos, de mémoire, ils sont, je crois, 25 pour toute la France.
Donc ouais, c'est ridicule. Mais c'est indécent.
Quand on voit la
souffrance
c'est terrible.
Qui est créée par ces problèmes de cyberharcèlement. Et qu'on entend 25 personnes, tu dis?
Oui, entre 25 et 30. Et sachant que Pharos, c'est une plateforme qui doit gérer aussi d'autres sujets très graves, notamment la pédopornographie, enfin, ce genre de sujets. Donc, ils ont déjà beaucoup à gérer, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des outils qui sont à notre disposition. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait progresser. On pourrait progresser, par exemple, sur le fait de former les gendarmes et la police à la gestion des affaires en ligne. Par exemple, c'est pas normal qu'une victime de cyberharcèlement ou par exemple de revenge porn aille voir un policier et qu'on lui dise bah, qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous fasse, c'est sur internet, c'est pas normal. Et ça passerait par de la formation, ça passerait par des moyens, et ça c'est très concret en fait, c'est pas un espoir vague, c'est des choses concrètes qu'on peut faire dès maintenant.
Pharos, c'est PHA, hein,
PHA, ouais.
Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient chercher la plateforme. Et donc, pour terminer sur une note positive, je vais te demander quels sont les sujets que tu as pu trouver préoccupants et qui ont bien évolué selon toi ces dernières années, que tu trouves réjouissants.
Je trouve qu'on traite avec plus de bienveillance toutes les formes de créativité en ligne. Je pense qu'on a longtemps considéré Internet comme un peu le royaume de divertissement un peu stupide, un peu geek, un peu, enfin c'était pas trop et je trouve que maintenant on reconnaît en fait la force créative d'Internet. Quand on parle des influenceurs et des influenceuses, maintenant on parle d'elles et eux comme des stars à titre réel. Et d'ailleurs, enfin, je parle de stars, mais il y en a qui c'est des vrais acteurs, c'est des vraies actrices, ils font des choses vraiment chouettes. Moi par exemple, il y a un sujet que j'aime beaucoup qui est celui des fanfictions, c'est les gens qui écrivent des fictions inspirées d'autres fictions, donc des fanfictions Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc. Et j'en parle souvent parce que moi, quand j'étais ado, j'en écrivais beaucoup et c'était un sujet dont on parlait pas trop, quoi. Hein, c'était vraiment. Et maintenant, déjà, c'est beaucoup moins un sujet honteux et maintenant on voit des films qui sont inspirés de fanfictions, etc. Donc je trouve qu'on a plus de respect pour la culture web aujourd'hui et qu'on considère davantage que la culture web est ce qu'elle est, c'est-à-dire une culture, cette sorte de sous-culture, quoi. Et donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Et je trouve que ça s'est amélioré à juste titre. Et voilà, ça pour le coup, ça me réjouit.
Très bien. Lucie, un grand merci pour ce temps que tu nous as consacré pour parler en détail de ce livre. Mais vraiment, j'invite nos auditrices et auditeurs à l'acheter, ce formidable petit livre internet aussi, c'est la vraie vie. Je mets toujours le lien vers le site de Librairie Indépendante, vers la page, pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent directement l'acquérir. Donc, Lucie Ronfaux-Hazard, c'est toi, Myrion Mal pour les formidables illustrations. Le titre Internet aussi, c'est la vraie vie, c'est aux éditions La Ville Brûle. Le prix, c'est 12 euros, donc ça reste raisonnable et accessible. Un grand merci.
Merci beaucoup.
Je te souhaite une bonne continuation. Peut-être qu'il y aura un tome 2 ou 3 dans quelques années.
Internet, c'est toujours la vraie vie.
Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup et je souhaite un grand succès à ce
Merci.
Livre. Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcasts. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.